BW. Vue d'Allemagne.
Les habitants de 3 des 16 Bundesländer allemands appelés aux urnes dès la semaine prochaine en Saxe, en Thuringe et dans le Brandenbourg. L'extrême droite est en tête des sondages dans les trois régions. On se penche sur ces élections dans un instant. Et puis juste après, dans 5 minutes, le grand reportage de la semaine nous emmène à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Les policiers et soldats déployés pour freiner l'immigration effraient aussi les touristes et c'est tout un secteur qui souffre. Mais d'abord donc, l'info en Allemagne. Los geht's, c'est parti. Guten Tag, bonjour à toutes et à tous. C'est dans moins de 10 jours, désormais, le dimanche 1er septembre, les habitants des Bundesländer de Saxe et de Thuringe sont appelés aux urnes en Allemagne. Le 22 septembre, ensuite, ce sera dans le Brandenbourg. Des scrutins pour élire les élus régionaux pour 5 ans. Des élections importantes car les Länder ont des pouvoirs étendus en Allemagne et gèrent de nombreux dossiers importants au niveau régional, des écoles à la police en passant par les établissements de santé.
DW.
Ces trois Länder sont situés dans l'est du pays, donc le Brandenbourg est la grande région autour de Berlin, la Saxe est celle voisine au sud, à la frontière avec la République tchèque et la Pologne, et la Thuringe est le Bundesland à l'ouest de la Saxe, au-dessus de la Bavière avec Erfurt. Trois Bundesländer qui faisaient partie de l'Allemagne de l'Est, de la RDA, avant la réunification de 1990. Ils comptent aujourd'hui près de 9 millions d'habitants, un peu plus de 10% du total allemand.
DW.
La campagne de ces élections dans trois anciens Bundesländer de l'Est se fait dans une ambiance très particulière. L'extrême droite fait la course en tête avec de 25 à 30%, voire plus, des intentions de vote. Le climat de campagne est donc très compliqué. Dans le Brandenbourg, les autorités ont recensé 75 cas de violence politique depuis le début de l'année. Un militant écologiste a encore été violemment pris à partie et jeté au sol la semaine dernière. Il distribuait des tracts dans les boîtes aux lettres. En Saxe, la tête de liste social-démocrate fait campagne avec des gardes du corps, elle, après des manifestations devant son domicile personnel, il y a près de 3 ans déjà. Et on pourrait multiplier les exemples, mais cela vous donne une idée de l'ambiance qui règne sur place. Alors partout, ici comme à Cottbus, dans le land du Brandenburg, les démocrates s'inquiètent.
Pendant très longtemps, des réseaux, des associations et des organisations d'extrême droite se sont reliés et mélangés entre elles ici. Cela crée un milieu particulier. Ce n'est pas pour rien que les services de protection de la Constitution se penchent régulièrement sur la région et tentent de mettre en lumière ce qui se passe au sein de ces réseaux.
Gesine Grande est présidente de l'université de Cottbus Senftenberg. Dans sa faculté, près de la moitié des 7000 étudiants sont des étrangers qui n'ont pas de problème tant qu'ils ne quittent pas le campus. En dehors, cela peut être très différent, raconte la présidente. Une candidate conservatrice aux élections de septembre, noire de peau, née au Cameroun, a récemment été frappée encore au centre-ville. Aysan Hayat, doctorant en physique de 33 ans, venu du Pakistan, parle lui d'une ville ouverte en général, mais se dit de plus en plus inquiet à quelques jours des élections.
Nos enfants sont nés ici, ils grandissent ici. Pourtant, personne ne sait s'ils sont nés en Allemagne ou au Pakistan, parce qu'ils ont l'air de ce qu'ils sont, ils ont nos traits physiques. Alors, dans la rue, ils pourraient un jour être en danger. C'est pourquoi nous avons peur de ce que l'avenir réserve à nos enfants.
Vous écoutez la DW.
Alors, pourquoi cette situation? Il est impossible de donner une explication complète et unique, mais c'est un mélange de plusieurs facteurs. Beaucoup parlent des sentiments de déclassement ou de manque de reconnaissance dans ces régions, et ce, depuis la réunification de 1990. Les rédactions principales des médias du pays sont toutes, par exemple, installées dans l'Ouest. Il y a aussi la proximité géographique avec l'Ukraine et les pays d'Europe de l'Est et les livraisons d'armes allemandes. C'est devenu cela un thème de campagne centrale ici. Beaucoup craignent que Berlin ne soit entraîné dans le conflit en soutenant l'Ukraine, en lui livrant des armes. Les difficultés de la coalition qui réunit trois partis démocrates à Berlin joueraient aussi un rôle. On vote extrême droite, pas pour les idées racistes du parti, mais pour sanctionner la politique nationale. Mais la peur et le mécontentement n'expliquent pas tout. Le taux de chômage a largement baissé depuis la réunification, aujourd'hui à peu près au même niveau que la moyenne nationale. Les taux de personnes étrangères dans la population sont largement plus bas qu'ailleurs. Certaines régions comme la Saxe sont devenues des pôles d'innovation technologique aussi. Tous des points donc qui devraient jouer contre l'extrême droite ou en tout cas ne pas lui donner un terreau fertile. Alors une des explications serait encore et toujours historique et liée à la fois au passé dictatorial de ces Bundesländer qui faisaient partie de la RDA avant la chute du mur et puis aux chocs et aux transformations qui ont suivi dans la société. Un fort taux de chômage, des centaines de milliers de personnes de ces régions obligées de migrer à l'ouest pour trouver du travail. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes ici qui auraient encore une idée différente de la démocratie par rapport à l'ouest et seraient plus facilement convaincues par l'extrême droite. C'est en tout cas une des explications données par Ilko Sacha Kovalkutsch, l'historien et l'un des meilleurs connaisseurs de la société est-allemande et a grandi en RDA.
Les régimes autoritaires offrent un cadre très clair sur la manière dont on doit se comporter. Et dans les régimes autoritaires, si on ne se rebelle pas, si on s'adapte, on peut vivre plutôt bien parce qu'on a en quelque sorte un cadre. Dans une démocratie, avec la liberté, on doit sans cesse faire des choix. Il faut sans cesse se pencher sur ses propres problèmes, prendre des décisions. Et cela entraîne naturellement une très grande insécurité. Cela conduit aussi, précisément parce que la démocratie n'est pas une arène de consensus, mais une arène de compromis dans laquelle tout est négocié en permanence, ce qui est extrêmement fatigant. Cela conduit aussi naturellement à ce qu'elles nous apparaissent à tous toujours très imparfaites, très inachevées. Pour beaucoup de personnes, c'est un très grand facteur d'insécurité.
En début de semaine, plus de 40 grandes entreprises allemandes ont lancé une campagne pour l'ouverture au monde. Ce qui se passe actuellement est extrêmement dangereux pour notre démocratie et pour l'économie allemande, explique l'initiateur du projet. Des campagnes de publicité dans les médias ou sur Internet sont notamment prévues d'ici donc au vote du 1er septembre dans ces trois Bundesländer. Après les élections en Thuringe, en Saxe et dans le Brandenburg, les formations de gouvernements régionaux pourraient être très compliquées. Beaucoup de partis ayant annoncé ne pas vouloir participer à des coalitions avec l'extrême droite.
Vous écoutez la DW.
Vue d'Allemagne, deuxième partie, on part désormais encore plus à l'est, en Europe, mais non loin des Bundesländer dont on parlait à l'instant. Nous sommes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. C'est là que depuis le mois de juin, une zone de 60 km de long est entièrement sous surveillance militaire. Objectif, empêcher le passage de personnes réfugiées en Pologne. Des milliers de personnes instrumentalisées par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko affluent à cet endroit depuis 3 ans, venues d'Afrique, du Moyen-Orient ou même d'Asie. En réaction, Varsovie a donc décidé de mettre en place cette zone militarisée il y a quelques semaines et jusqu'au 13 septembre pour l'instant. Zone qui effraie les touristes depuis 3 mois aussi. Résultat, c'est toute une région qui souffre sur place. Reportage signé Adrien Sarlat.
Une des régions d'Europe les plus prisées des amoureux de la nature, devenue un repoussoir pour les touristes. La bande de territoire militarisé censée bloquer les migrants venus de Biélorussie passe en plein cœur de la dernière forêt primaire d'Europe. Une zone tampon nécessaire et efficace selon les autorités, elles observent une baisse du nombre de tentatives de traversée illégale vers la Pologne. La porte-parole des gardes-frontières, Katarzyna Zdanowicz, affirme qu'en un mois, elles ont reculé de 70%. 1300 tentatives en juillet contre 7000 au mois de mai.
Les patrouilles polonaises reçoivent des jets de pierre, de branches d'arbres, des branches enflammées, des boules de métal ou de verre, donc des objets qui peuvent blesser, voire tuer, comme ça a été le cas pour un soldat qui a été poignardé avec un couteau. Ces mesures permettent donc de sécuriser correctement la frontière et de garantir la sécurité, y compris celle des touristes qui viennent en vacances dans notre belle région.
Pourtant, les touristes ne semblent pas avoir interprété le message de la même façon. Dans le parc national de la forêt de Białowieża, la responsable des lieux, Anna Gerasimiuk, observe une baisse du nombre de billets vendus depuis la mise en place de la zone tampon et sa médiatisation.
Le fait qu'on ait moins de touristes, c'est pour nous un problème, ainsi que pour la population locale. On s'inquiète surtout pour les habitants de la région qui vivent aux alentours du parc national et dont beaucoup sont des guides touristiques. Ils ont du mal à garder la tête hors de l'eau.
Le musée attend la fin de l'été pour faire les comptes, mais les allées vides dans la réserve de bisons parlent d'elles-mêmes. Même constat au village de Białowieża. Ce soir, Sławomir n'a servi qu'une vingtaine de couverts dans son restaurant en plein cœur de la haute saison. Lui dénonce un emballement médiatique excessif autour de cette zone tampon.
Depuis que cette zone tampon a été annoncée, on a perdu quasiment tous nos touristes. En juillet, j'ai eu un tiers de clients par rapport à l'année dernière, à la même période. Nous, on s'efforce d'expliquer aux clients qu'ici, on est en sécurité. On met en place des promotions pour les attirer. Mais si à côté, on reçoit la visite d'un politique qui vient faire une photo près du mur à la frontière ou avec les soldats, ça ne contribue pas au développement du tourisme.
Pourtant, le tracé de la zone militarisée a été étudié pour n'englober aucun village et ne pas freiner l'activité touristique. Mais Dorota, qui tient une chambre d'hôte, a vu la moitié de ses réservations annulées dès son entrée en vigueur début juin.
Je dis à tout le monde que c'est tranquille ici, que c'est très calme, que personne ne tire et que personne ne tue personne. J'ai réussi à convaincre certains clients de venir quand même, mais d'autres me répètent que les médias ont dit que la région était dangereuse et qu'il était préférable de rester à distance.
Un message anxiogène qui compromet la survie de son activité.
Les coûts de la maison restent les mêmes, qu'elle soit pleine ou non. L'eau, l'électricité, il faut payer tout ça. Mais avec moitié moins de touristes, on gagne deux fois moins. Ça nous met en danger, bien sûr. Ça devient difficile de maintenir la maison. On ne sait pas ce qu'il va se passer par la suite.
Marek gère un hôtel dans le village. Et avec des confrères, il a suggéré à l'État la création de bons touristiques. Une sorte de chèque vacances valable dans la région que l'État distribuerait aux familles pour sauver la saison touristique.
Ça permettrait de payer par exemple des nuitées à l'hôtel ou chez l'habitant, l'entrée au musée du parc national de Białowieża, la location de véhicules, les repas au restaurant. Et évidemment, ça ferait augmenter l'intérêt pour notre zone frontalière et donc le nombre de touristes sur ce territoire qui en a cruellement besoin aujourd'hui. L'État a l'obligation de nous aider car on se prend les conséquences de cette situation dans la figure au nom de la sécurité de toute la Pologne.
Un projet qui ne pourra cependant pas être voté avant la rentrée parlementaire. Après des étés marqués par le Covid et une menace migratoire grandissante depuis 3 ans, les professionnels gardent espoir de revivre un jour une saison normale pour ne pas mettre la clé sous la porte. Adrien Sarla, Varsovie, pour la Deutsche Welle.
Adrien Sarla, qu'on remercie, ainsi que Bettina Steckkämpfer, Hans Pfeiffer, Ralf Bösen et Jens Touro pour leur aide dans la préparation de cette émission. La semaine prochaine, Anne Letouzé fera son retour à ce micro. Et moi, je vous quitte pour quelques semaines. Je vous dis bis bald. À très bientôt. Tchuss.